Vous écoutez Principe Actif sur le DAB+.
En temps universel, merci de nous rejoindre sur Radio France Internationale, 6h ici à Paris. Toute l'actualité, Gaëtan Plenet, bonjour.
Ah bonjour Edouard, bonjour à tous.
Votre journal qui commence par le détroit d'Ormuz, toujours bloqué par l'Iran, mais aussi désormais par les États-Unis.
Washington bloque depuis hier les ports iraniens et promet de détruire les navires qui forceraient le passage du côté de Téhéran. On ne semble pas fléchir. On est en France dans cette édition après l'adoption à l'unanimité hier à l'Assemblée nationale d'une loi censée faciliter les restitutions d'œuvres pillées pendant la colonisation. On sera aussi en Espagne où l'épouse du Premier ministre a été officiellement inculpé par la justice hier, notamment pour détournement de fonds. Et puis Liverpool veut inverser la tendance. Les Anglais, battus à l'aller, reçoivent le Paris Saint-Germain ce soir pour leur quart de finale retour de la Ligue des Champions. Un match qui sera à suivre en direct et en intégralité sur RFI. La balle est dans le camp de l'Iran, assure J.D. Vance. Après l'échec des négociations entre son pays et Téhéran ce week-end, le vice-président américain rappelle dans une interview sur Fox News les exigences de Washington. Une prise de possession totale de l'uranium enrichi en Iran et l'assurance qu'il ne sera plus enrichi à l'avenir. Les Iraniens ont appelé, assure Donald Trump. Ils veulent un accord à tout prix, dit même le locataire de la Maison Blanche. Mais du côté de Téhéran, Nicolas Falaise, on affiche la solidité et la combativité du régime.
Nous avons le doigt sur la gâchette, affirmait il y a quelques jours une source diplomatique iranienne contactée par RFI. Les communiqués officiels de Téhéran décrivent le peuple d'Iran vainqueur sur le champ de bataille après des semaines de guerre. Militairement, la République islamique a souffert des bombardements américains et israéliens, mais le régime ne s'est pas effondré, il n'a pas capitulé malgré l'élimination du guide suprême Ali Khamenei et de dizaines d'autres cadres politiques et sécuritaires. Le régime est galvanisé, il s'est même enhardi, nous confie un diplomate occidental qui connaît bien les arcanes du pouvoir de Téhéran et selon lequel la République islamique estime qu'elle peut désormais pousser ses exigences, notamment sur le contrôle du détroit d'Ormuz. C'est un effet de la guerre asymétrique. En ne perdant pas face aux superpuissances militaires américaines et israéliennes, l'Iran peut prétendre qu'il a gagné face à des ennemis dont la République islamique nourrit son idéologie depuis près d'un demi-siècle.
Nicolas qui évoquait le détroit d'Ormuz paralysé par l'Iran depuis le début de la guerre. Pourtant, 34 navires l'auraient franchi hier selon Donald Trump et ce serait grâce au blocus des ports iraniens qu'il a ordonné dans le Golfe et en mer d'Oman. Si un navire d'attaque rapide iranien tentait de forcer ce blocus, il serait immédiatement détruit, prévient Donald Trump. Téhéran dénonce un acte illégal de piraterie, une violation grave de sa souveraineté et menace de représailles en visant les ports de ses voisins du Golfe. Toutes les parties doivent respecter la liberté de navigation, plaide de son côté le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, quand la France et le Royaume-Uni prévoient d'organiser dans les prochains jours une conférence réunissant les pays prêts à contribuer, je cite, à une mission multinationale pacifique destinée à restaurer donc cette liberté de navigation. Mais les faits sont là, en tout cas la guerre et le blocage de ce détroit d'Hormuz perturbent le transport de pétrole dans le monde. Ça ne va d'ailleurs pas s'arranger ce mois-ci, ça devrait être pire en avril, prévient l'Agence internationale de l'énergie. Alors la solution serait-elle le pétrole américain? C'est en tout cas ce que semble croire Donald Trump, qui espère bien profiter d'une certaine manière de la situation. Correspondance à New York de Gwendal Lavina.
À plusieurs reprises ces derniers jours, le président a affirmé que de très nombreux pétroliers vides se dirigent en ce moment vers les côtes américaines pour remplir leurs cales. Sur Fox News, Donald Trump s'est même adressé spécifiquement à la Chine pour inviter ses navires aux États-Unis, mais aussi au Venezuela, dont la production d'hydrocarbures est de facto contrôlée par Washington. Donald Trump présente le pétrole, l'essence et le gasoil américain comme une alternative durable à ce que produit habituellement le Moyen-Orient. Selon des projections du site spécialisé Kepler, les exportations de pétrole brut par les États-Unis vont atteindre 5 millions de barils par jour ce mois-ci, contre 4 millions de barils en moyenne par jour sur l'année 2025. Mais les spécialistes du secteur rappellent deux choses. La première est qu'avant la guerre, le détroit d'Hormuz voyait transiter 20 millions de barils de brut et d'autres produits pétroliers chaque jour. Impossible pour les États-Unis d'arriver à un tel niveau. Et c'est le second élément. Les majors américaines n'ont quasiment aucune marge de manœuvre dans la production ou l'exportation de davantage d'hydrocarbures. Les projets d'extension en cours de leurs infrastructures ne porteront leurs fruits que dans plusieurs années. Gwendal Lavina, New York, RFI.
Et puis l'armée israélienne annonce ce matin la mort de l'un de ses soldats dans le sud du Liban. Le tout alors que c'est justement aujourd'hui que doivent débuter des pourparlers entre les deux pays. Des représentants libanais et israéliens doivent se retrouver à Washington en présence du chef de la diplomatie américaine Marco Rubio. Alors que depuis le 2 mars dernier et le début des frappes israéliennes au Liban, plus de 2000 personnes ont été tuées selon les autorités locales. Reportage à Beyrouth, à Presse Journal, vous entendrez notamment le scepticisme des habitants à quelques heures de ces discussions qui pourraient porter notamment sur le désarmement du Hezbollah. Victoire écrasante et sans grande surprise au Bénin, le ministre des Finances Romuald Ouadani est élu président. Le candidat de la majorité recueille un petit peu plus de 94% des suffrages selon des résultats provisoires proclamés cette nuit par la Commission électorale nationale. Vous nous en parlez tout à l'heure dans Appel sur l'actualité avec Juan Gomez. Rendez-vous après le journal de 8h en temps universel. Pour l'instant, il est 5h05 à Annaba, dans le nord-est de l'Algérie. La dernière fois qu'il s'y était rendu, c'était en 2013 et Robert Francis Prévost était alors prieur général de l'ordre des Augustins. Il y revient aujourd'hui, mais cette fois en tant que pape, et il s'appelle désormais Léon XIV. Il poursuit donc sa visite en Algérie, entamée hier à Alger. Une première journée marquée par des appels à la paix et au dialogue entre les religions, marquée aussi par une tentative d'attentat à Blida, à quelques dizaines de kilomètres de la capitale. Assez peu d'informations pour l'instant, les autorités algériennes ne communiquent pas, mais deux kamikazes se seraient fait exploser, ils seraient les seules victimes. Unanimité en France, fin janvier d'abord au Sénat, et puis hier à l'Assemblée nationale, cette fois où les députés ont adopté un projet de loi sur la restitution des biens culturels spoliés durant la colonisation. Une loi pour gagner en efficacité, explique la ministre de la Culture, Catherine Pégard, car jusqu'à présent, la justice française exigeait le cas par cas, le vote d'une loi pour chaque restitution, ce qui allongeait considérablement les délais. Cette fois, plus besoin de ça. Une fois l'adoption définitive de ce projet de loi, il suffira d'un accord émanant d'un comité scientifique composé de chercheurs français et d'autres originaires des pays d'origine de ces objets volés. Sidi Hansane.
170 voix pour, 0 contre. Rarement un projet de loi aura autant rassemblé l'hémicycle. Tous les partis sont d'accord sur le principe de la restitution, mais tous n'en partagent pas les mêmes critères. L'extrême droite, par exemple, refuse que cette loi serve d'excuse à une politique de repentance de la France vis-à-vis de ses anciennes colonies. Elle considère aussi des objets comme des trophées de guerre, notamment les biens militaires, qui restent exclus de la loi, comme le canon Baba Merzoug que réclame l'Algérie. À gauche, on déplore que le texte ne couvre que la période de 1815 à 1972, choses et que les collections privées des particuliers ne soient pas prises en compte. Un mot brille par son absence, c'est le terme colonisation, ce que regrette la députée écologiste Sophie Taillé-Polian. L'élu dénonce une forme de déni de la part du gouvernement et appelle à mieux nommer les choses pour mieux les comprendre et mieux faire face à cette histoire tragique. Sur ce point, la députée, qui bataille pour la création d'un musée de la colonisation, a été soutenue par d'autres mouvances politiques pour qui regarder le passé en face n'affaiblit pas la France, mais au contraire la renforce.
La précision de Sidi Ansané. En Haïti, la police annonce l'arrestation de 7 personnes. Elles sont accusées d'être impliquées dans la bousculade qui a fait 25 morts samedi dans une ancienne citadelle militaire dans le nord du pays. En Espagne, après le frère, c'est au tour de l'épouse du Premier ministre Pedro Sanchez d'être inquiétée par la justice. Au terme de 2 années d'enquête, Begoña Sanchez a été formellement inculpée hier pour détournement de fonds, trafic d'influence, corruption, mais aussi appropriation illicite. Les explications de Guilhem Deltaï.
Jusqu'à la rentrée universitaire de 2024, Begoña Gomez dirigeait un master de management à l'Université Complutense de Madrid. Mais le magistrat qui vient de l'inculper estime qu'elle a profité de son statut d'épouse du Premier ministre pour obtenir des avantages personnels. Il l'accuse notamment d'avoir utilisé, dans le cadre de ce master, les services d'une assistante censée l'aider uniquement dans ses fonctions officielles. Il lui reproche également d'avoir utilisé sa position pour tisser des relations avec un homme d'affaires qui pourrait avoir financé son master. Begoña Gomez, comme Pedro Sanchez, qui a aussi été appelé à témoigner, rejette les accusations. L'épouse du chef du gouvernement espagnol a affirmé n'avoir demandé que ponctuellement à son assistante d'envoyer des mails liés à son activité professionnelle. Mais l'opposition réclame la démission du Premier ministre affaibli par des échecs électoraux, car les accusations visant sa femme s'ajoutent à d'autres affaires de corruption touchant son entourage. Le frère de Pedro Sanchez devrait être jugé le mois prochain dans un autre dossier de trafic d'influence et l'ancien bras droit du Premier ministre a lui comparu ce mois-ci dans une affaire de pot de vin présumé dans des contrats publics.
Voilà qui devrait considérablement faciliter la tâche à Marc Carney pour accélérer ses réformes. Le Premier ministre canadien décroche une majorité parlementaire après les 3 législatives partielles qui étaient organisées hier. Alors on attend encore les résultats dans l'une des circonscriptions, mais dans les 2 autres, à Toronto, son parti libéral l'emporte selon les médias canadiens et ça suffit donc à lui assurer une majorité absolue au Parlement. L'ambiance s'annonce électrique ce soir à Liverpool. Il faut dire que les footballeurs du club anglais sont dos au mur. Ils reçoivent le Paris Saint-Germain en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Et à l'aller, ce sont les Parisiens, étonnant du titre qu'ils l'avaient emporté 2-0. Une avance confortable, mais gare à l'esprit de revanche anglais. Un reportage de notre envoyé spécial à Liverpool, Cédric De Oliveira.
Pour Craig, c'est comme si le match de mercredi n'avait pas existé. Liverpool a franchement été décevant au Parc des Princes, mais ce supporter des Reds est persuadé qu'à Anfield, dans leur stade, tout va changer.
C'est toujours un énorme avantage de jouer à Anfield. Tout peut arriver. Je me souviens d'un match incroyable ici contre Barcelone. C'était il y a 5 ou 6 ans.
C'était en 2019. À l'époque, Liverpool avait perdu 3-0 à l'aller avant de l'emporter 4-0 face au Barça de Messi. Et ici, tout le monde rêve d'un scénario similaire à l'image de l'entraîneur Arne Slot.
On a montré tellement de fois de quoi on était capable, de sortir un grand match. Depuis que je suis ici, en près de 50 matchs à Anfield, à 36 reprises, on a marqué plus de 2 buts. Mais il faudra faire quelque chose d'exceptionnel contre les champions d'Europe. Ce sera difficile, mais pas impossible.
Le problème, c'est que Liverpool n'affronte pas le PSG tous les week-ends et que le tenant du titre ne sera pas surpris par l'accueil des Anglais. Son entraîneur Luis Enrique se montre vigilant.
Pour moi, c'est un match piège. Tout le monde parle qu'on a été très supérieur, et peut-être c'est vrai, mais tu peux concéder un but dans les premiers mi-temps et le match est encore ouvert.
C'est l'objectif de Liverpool, marquer très vite, mettre le doute dans la tête des Parisiens, prendre sa revanche sur l'an dernier et se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2022. Cédric D'Oliveira, Liverpool, RFI.
À Liverpool PSG, coup d'envoi à 19h en temps universel, à suivre en direct et en intégralité sur RFI à partir de 18h50. Le Barça, lui, joue sur la pelouse de l'Atlético Madrid et les Catalans sont dans la même situation que les joueurs de Liverpool puisque eux aussi avaient perdu 2-0 au match aller, mais à domicile cette fois, ce qui complique éventuellement évidemment encore un petit peu plus la tâche. On aura l'occasion d'y revenir ce matin dans nos différents journaux des sports.
Gaëtan Plenet.
Le retour de l'actualité africaine dans une petite vingtaine de minutes. D'ici là, on est en Allemagne, auprès de notre correspondante qui nous parlera de la base américaine de Ramstein. Donald Trump menace de la fermer, on va voir pourquoi, et puis on tentera de comprendre si c'est une menace sérieuse ou pas. L'artiste franco-palestinien Ossam sera notre invité culture ce matin, lui qui sort un nouvel EP. Et puis on parlera de la fatigue, la grosse fatigue. Quand s'inquiéter, quand consulter, ce sera notre conseil santé du jour. Mais d'abord, on part au Liban. Une capitulation, c'est ainsi que le chef du Hezbollah, Naïm Kassem, qualifie les pourparlers prévus entre Israël et le Liban. Il en demande l'annulation. C'est pourtant bien, je vous le disais tout à l'heure, ce mardi à Washington, que les ambassadeurs israéliens et libanais doivent se rencontrer pour tenter de mettre fin à la guerre qui dure depuis début mars. Le 2 mars, très exactement, ce jour-là, le Hezbollah libanais lançait des tirs de roquettes sur Israël en réponse à l'assassinat du guide suprême iranien. Depuis, les frappes israéliennes sont quotidiennes. Elles ont déjà fait plus de 2000 morts au Liban. Mercredi dernier fut la journée la plus sanglante. On l'appelle même le mercredi noir, avec des bombardements massifs d'immeubles d'habitation à Beyrouth. Au moins 357 morts et près de 2000 blessés. Un immeuble a notamment été visé dans le quartier de Talet El Rayat à Beyrouth. 12 personnes y ont perdu la vie. Alors forcément, là-bas, tout le monde va suivre de près. C'est pour parler israélo-libanais avec plus ou moins d'optimisme. Reportage de nos envoyés spéciaux Abla Junaidi et Jad El Khoury.
Plus de peur que de mal pour Hassan Zaatari. Cet employé d'un bureau d'études et son équipe se dépêchent de vider les lieux pour s'installer ailleurs.
On avait fini le travail, on était rentré chez nous quand on a appris que l'immeuble avait été frappé. Dieu merci, les bureaux étaient vidés, aucun de nos employés n'a été tué. Là, on essaie de sauver ce qu'on peut de nos données. Ce côté de l'immeuble n'a pas été dévasté. L'autre moitié, en revanche, a disparu.
Au soir du mercredi noir, une ultime salve de missiles s'abat sur l'immeuble résidentiel de 8 étages. Parmi les victimes, la poétesse Salma Khatoum. Shadi et ses parents, eux, ont survécu. Le jeune homme, des traces d'éclats sur tout le corps, a vu son monde s'effondrer.
J'étais au lit quand j'ai vu deux missiles qui traversaient le mur juste au-dessus de moi, rentrer dans le sol. Les chambres ont été détruites, comme le salon, la salle à manger et la cuisine. Ma mère a les mains cassées. Mon père, c'est le cas le plus grave parce qu'il était dans le couloir et il est tombé dans le vide. Par miracle, on est juste blessé.
te v'là tout seul comme un rat mort.
Jean-François Copé, Philippe Bernard, Harlem Désir, Alain Juppé, tous ceux que j'ai cités ont été condamnés. Ce sont les mecs de cité qui traitent comme des damnés. Vous étiez choqués par le groupe Tandem, vous faites la même à la France, mais jusqu'à ce qu'elle saigne, jusqu'à ce qu'elle coule, comme la Grèce ou l'Italie. Vous avez meurtri le pays jusqu'à l'agonie. Cumul des mandats jusqu'où vous irez. Est-ce le cumul des salaires que vous désirez? Comme toute la France d'en bas, je crois plus aux politiciens. Je continue le combat, je crois au réveil citoyen. Pour changer les choses, il faut le vouloir. Vous n'avez pas de cause profonde si ce n'est le pouvoir. Vous faites de la politique sans conviction. Parfois vous en faites même pour éviter la prison. En costume cravate sont les vrais voyous. Vous ne croyez plus à rien, plus personne croit en vous. Y'a qu'à observer les taux d'abstention. Faut pas trop prendre les gens pour des cons, attention. Sentez-vous le vent tourner comme vos vestes. Entre vous et la rue, y'a plus que les CRS. À bout de souffle, votre système est dans un cul-de-sac. À essayer de se débattre comme un cul-de-chat. Vous êtes élu pour un truc, vous ne le faites pas plus. Vous faites l'inverse, en plus ça ne vous gêne pas. Et si le peuple a l'idée de se rebeller, vous disposez d'une armée de flics bien dressée. Le dialogue social, j'ai dans un cercueil. Les keufs tirent au flashball, tu peux y perdre un œil. Vous faites monter le sentiment anti-policier. Usez de la police comme d'une armée privatisée.
Le politique, qu'il soit femme ou homme, pour moi en tous les cas, et pour l'instant, peut-être que demain j'aurai changé d'avis, il ne sert plus à rien. C'est un prestataire de service. Ces putains de dettes là qui emmerdent tout le monde, qui mettent les peuples à plat, qui les mettent à genoux et ainsi de suite, on n'arrive pas à les éliminer. Comme vous les politiques, vous n'arrivez pas à les faire éliminer. Ces putains de dettes, parce que la banque elle est plus forte que vous.
La banque elle est plus forte que vous.
La banque elle est plus forte que vous.
Tout le monde le sait, c'est une évidence. Vous êtes complètement soumis à la finance. Vous votez les lois que les riches ordonnent. Après le 49-3, plus rien ne m'étonne. On travaille plus mais on gagne moins. On attend juste le printemps européen. On cotise pour des retraites qu'on ne verra peut-être jamais. Tout l'argent qu'on fait rentrer, vous nous le reprenez. Chaque fin du mois à découvert, on a l'impression d'être esclave du système bancaire. Les plus riches connaissent le jeu, jouissent de niches fiscales. Les petites PME croulent sous les charges sociales. Radar, on paye, péage, on paye, pollution, on paye. Oh, qu'est-ce que vous faites avec tout ce fric? Que foutait Eric Zemmour sur une chaîne publique? Payé pour propager sa haine, semer des graines récoltées par le FN. Pour vous même Marine Le Pen est devenue fréquentable. Quiconque combat l'islam peut s'asseoir à votre table. Incapable de gouverner, vous divisez. Incapable de rassembler, vous stigmatisez. Aveuglé par le pouvoir, vos cœurs sont voilés. Beaucoup plus que le visage de cette femme voilée. Tous vos prétendus principes de laïcité ne concernent pas cette Saoudienne sur les Champs-Élysées. Pour vous tous négocier, tout est question de joie. Vous êtes même prêts à livrer des polis au Qatar. Votre jeu est trouble. Votre discours est double. Vous payez dit des droits de l'homme. L'état d'urgence est devenu la norme. Et vous prétendez faire la leçon au monde entier. Imposer la démocratie à coups de mortier. Sans pitié, vous avez buté Kadhafi. Aujourd'hui, dans quel état se retrouve la Libye? La roue le sait, je le mets en musique. Vos médias le taisent, je le rends public. Je vous tiens tête comme un mec des minguettes. Est-ce le genre de texte qui peut me valoir une fiche S? Droit dans mes bottes, je ne baisse jamais mon froc, la tête haute, tu intègres. Je fais du hip-hop, vous appelez ça de la musique nègre. Genre en indé, tu me verras plus jamais mettre les pieds à Skyrock. Ils n'aiment pas ce que je suis, ce que je défends, ce que je porte, c'est réciproque. Ils ont travesti le RAP, je fais partie des rescapés. Ils ont encensé la médiocrité, ils ont fait du hip-hop de la variété. Ils ont joué les clashs pour nous diviser. Quand ça fait de l'audience, on peut s'allumer. Quand un rappeur se fera buter, ils organiseront un concert au nom de la paix. Yeah, je fais de la musique contestataire. Vous vendez des espaces publicitaires. Je me suis sacrifié pour mes petits frères. Vous vous jouez des trucs qui les envoient au cimetière. Fric et violence dans vos playlists. Vous abrutissez les miens, ça plaît aux élites. Vous vous êtes servi de moi, je me suis servi de vous. Pour que mon message passe au plus grand nombre, maintenant je peux le faire sans vous. J'ai un public qui me soutient. J'ai fait des choses, le peuple s'en souvient. La roue vous vomit, je le rends public. Rien n'a changé depuis Lettre à la République.